France Info.
Bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau des informés, les informés de France Info, à la radio, à la télévision, sur le canal 27 de la télévision, bien sûr aussi, sur votre site internet franceinfo.fr. Les informés pour décrypter l'information politique de ce week-end. On reviendra également sur l'information politique de cette semaine qui a été très animée. Par exemple, on va parler bien sûr de la droite dispersée façon puzzle. Alors, est-ce que Laurent Wauquiez est l'homme de la situation pour recoller les morceaux? On verra ça. On parlera bien sûr des grandes réformes engagées par le gouvernement, parce qu'il n'y a pas que la réforme de la loi du travail. Emmanuel Macron a-t-il la baraka? On en discutera. Et puis, nous parlerons bien sûr de l'actualité du jour, l'actualité internationale, qu'est la Corée du Nord. Est-on vraiment sous une nouvelle menace nucléaire? Mais d'abord, laissez-moi vous présenter nos invités. Alban Micosi, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint au service international de France 2. À vos côtés, bonsoir. Caroline Michel, grand reporter bonsoir. Au service éco de l'Obs. Jean-Christophe Ploquin, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef à La Croix. Et puis, Mathias Léridon, expert en communication, président de Tildor. Bonsoir.
Bonsoir, Pierre.
Alors, l'actualité politique de ce week-end, je vous le disais, ce sont les Républicains qui tentent de se réconcilier, de recoller les morceaux. À la Baule, d'abord hier, ils ont débattu de l'avenir, et l'avenir pour les Républicains, c'est un objectif à la mi-décembre, l'élection du président du parti. Et un homme se déclare, c'est Laurent Wauquiez, il l'a encore dit aujourd'hui devant ses partisans.
Au secours, il est de droite, je confirme. Pire que ça, il ne s'en excuse pas. Et puis quoi encore? Mais il ne va même pas mettre le cap un tout petit peu à gauche? Eh bien non, je ne me renierai pas, je ne trahirai pas vos valeurs, parce que j'en ai assez que la droite marche à l'ombre. Je suis de droite et je ne vois aucune raison que nous nous excusions de nos valeurs.
Laurent Wauquiez, bon, qui revendique devant ses supporters, on va parler de la forme dans un instant, mais du fond, tout de suite, il revendique « je suis un homme de droite », il avait une étiquette bien collée sur lui depuis quelques temps, il le revendique, il le clame. Jean-Christophe Ploquin, c'est clair et net?
C'est clair et net, mais il est qu'au tout début du processus de conquête du parti, les Républicains, et je pense qu'il va falloir qu'il ouvre son jeu assez vite. S'il veut se présenter, il doit aussi jouer un certain rôle rassembleur.
Ah, on a vu,
regardez Virginie Calmels, donc
voilà, c'est la prise de guerre
aujourd'hui. Juppé, voilà, qui l'a rejoint, et je pense que Laurent Wauquiez, si c'est un bon stratège, à la fois il faut qu'il continue effectivement, surtout qu'il ne vacille pas, je dirais, dans son affirmation qu'il est de droite, mais c'est finalement pour lui assez facile de le dire, mais il va falloir qu'il aille chercher des soutiens parmi ceux qui vont promouvoir, je pense, un langage davantage d'ouverture.
Caroline Michel, comment peut-on imaginer recoller les morceaux dans une famille qui a été complexement explosée après ce qu'on a appelé le Pelenopgate, les élections perdues, la présidentielle, les législatives, ce long désert de communication de la droite pendant les vacances, et comment rassembler quand on a aussi la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui dit « pas question ». D'y aller si c'est avec Laurent Wauquiez.
Alors l'équation est extrêmement complexe. D'abord, il est le favori un peu par défaut, parce que tous les autres poids lourds n'ont pas voulu y aller. Il est en tête parce que c'est le seul qui a accepté de prendre les risques après le fiasco de l'élection présidentielle. Il a un espace politique qui a été extrêmement réduit, parce que je dirais que le Sarko de 2007, pro-libéral, pro-business, Macron l'a pris. Les accents gaullistes, sauveurs de la patrie, héroïsme, Macron l'a pris. Il lui reste la partie, le noyau dur, qui est ce que François Fillon visait déjà, la droite pure et dure, identitaire.
Une espèce de copier-coller.
Mais il ne peut pas, puisque tous les autres lui ont dit, tous les autres barons lui ont dit, mais si c'est ça, nous, on vient pas. Donc, il y a une espèce de dichotomie qu'on voit bien aujourd'hui entre la base qui apprécie vraiment Laurent Wauquiez, parce qu'il fait appel, et on voit bien que c'est ce qu'il a essayé de faire aujourd'hui, sans dire les mots qui fâchent, mais il fait appel à quelque chose, des croyances, des convictions plutôt que des croyances très ancrées, et la baronnie, les barons, les différentes directions du parti qui n'ont pas voulu y aller et qui disent attention, si tu dérapes, on ne te soutiendra plus, ce qui déjà le signe qu'ils le soutiennent comme la corde le pendu. Donc on est dans une équation assez complexe à résoudre.
Mathias Léridan, expert en communication, patron du cabinet Tildar, j'aimerais vous entendre un peu sur deux choses. D'abord le fond et puis on va parler de la forme parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Le fond.
Bah, sur le fond, d'abord, Laurent Wauquiez, il y a eu un nettoyage générationnel après l'élection d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que toutes les grandes figures de tous les partis, alors c'est vrai pour les Républicains, mais c'est vrai pour les autres partis politiques, toutes les grandes figures, elles ont l'impression d'être des figures du XXe siècle. C'est vrai que l'élection d'Emmanuel Macron, l'arrivée d'Édouard Philippe, les nouveaux députés En Marche, on a l'impression qu'une nouvelle génération prend le pouvoir. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a un actif pour Laurent Wauquiez, c'est que il est un rescapé de ce nettoyage générationnel. On a l'impression qu'il fait partie de cette nouvelle génération. Donc ça, c'est un vrai actif qu'il est en train d'utiliser. Il y a un deuxième problème, c'est qu'en fait, La République En Marche, c'est finalement une espèce de dématérialisation de la réalité et de la puissance des partis. Puisqu'en fait, le discours d'Emmanuel Macron, c'est de se dire, si vous voulez faire réussir la France, puisque l'engagement politique, c'est pour faire réussir son pays, à ce moment-là, les partis, ça sert à rien. Rejoignez-nous. Donc là, c'est très difficile parce que sur le fond, sur le positionnement politique, quelqu'un comme Laurent Wauquiez, il a beaucoup de mal à exister face à un discours qui est un discours qui est de dire « Mais si vous avez des idées pour la France, venez de notre côté, venez à nos côtés pour travailler avec nous sur la France. » Alors après, il y a, sur la forme, un vrai sujet.
On va parler de la forme dans un instant. On va continuer ce débat. 20h10 sur France Info. Retour à l'information avec vous, Marc Potvin.
Donald Trump hausse le ton. Vladimir Poutine appelle à ne pas céder aux émotions. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi. Les réactions s'enchaînent après l'annonce d'un nouveau test nucléaire mené par la Corée du Nord. Le président des États-Unis compte parmi les plus virulents. Donald Trump n'exclut pas une intervention militaire contre Pyongyang. Il envisage aussi d'arrêter les échanges commerciaux avec les pays qui font des affaires avec la Corée du Nord. Un moment attendu ce soir en Allemagne. Dans 5 minutes, les deux candidats au poste de chancelier vont s'affronter à la télé. Seul débat avant les élections législatives du 24 septembre. La chancelière sortante Angela Merkel est opposée à Martin Schulz, son concurrent social-démocrate. La présidente des Restos du Cœur en Isère se réjouit sur France Info. Brigitte Cotte se dit particulièrement ravie des consignes données par le Premier ministre Édouard Philippe. Consignes pour que certaines associations continuent de bénéficier de contrats aidés. Ça va permettre au Resto du Cœur de Grenoble de reprendre la distribution de repas chauds. Laurent Wauquiez s'engage à rassembler la famille divisée des Républicains, mais il prévient, ce rassemblement se fera autour d'un projet ancré à droite. Le temps de la reconstruction est venu, estime le candidat à la présidence de LR. Déclaration en marge de son ascension annuelle du Mont-Mézin dans son fief de Haute-Loire. Et puis une quatrième médaille pour la France aux Mondiaux de judo. Cet après-midi, les tricolores ont obtenu le bronze dans l'épreuve par équipe mixte. Les Bleus ont battu la Russie 5-1.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu. Les informés de France Info, sur la radio France Info, la télévision France Info, le canal 27. On continue ce débat autour de la droite qui tente de rassembler avec nos invités Alban Micozzi, Caroline Michel, Jean-Christophe Ploquin et Mathias Léridon. Je passe la parole justement à Alban Micozzi. Peut-on imaginer que les cadres du parti juppéistes, fillonistes, sarkozistes et autres, s'il reste encore quelques chiraquiens, se rangent les flingues, comme le souhaite Bruno Retailleau. Hier, c'était à la Baule.
Ça, on va bien le voir. Ce qui est sûr, c'est que ce à quoi on assistait aujourd'hui, c'est à un geste fondateur. Laurent Wauquiez a cherché, avec cette symbolique de l'ascension, à se créer un personnage.
Il a grimpé sa montagne, lui aussi.
Voilà, ça rappelle au passage François Mitterrand.
Par exemple, Arnaud Montebourg aussi.
Arnaud Montebourg et quelques autres,
François
effectivement.
François Fillon, à la Rune, au Pays Basque.
Et il y a cette, vous savez, dans cette montée vers un sommet, il y a, ça renvoie une image presque biblique, pardon de dire ça en présence du,
pas que, mais
du rédacteur en chef de la Croix, mais c'est le sermon sur la montagne. C'est le berger qui emmène ses brebis et à partir de là, il espère être suivi par un troupeau de plus en plus large. Je crois que
les
c'est
tables
ça.
De la loi, si vous voulez.
Et les tables de la loi
de Moïse au Sinaï. Je ne pensais pas que vous y aussi loin ce soir.
Ce qui est sûr, c'est qu'il se cherche un geste fondateur. Oui. Parce que pour l'instant, l'image de Laurent Wauquiez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est forte à l'intérieur du parti, mais il va falloir aussi qu'il aille conquérir, convaincre en dehors. Et là, il y a plus de réticence.
Puisqu'on parle de l'image de Laurent Wauquiez, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette image. Aujourd'hui, avant, je crois que c'était avant son ascension, il a tenu une petite réunion politique où il y avait la jupéiste Virginie Calmels. Il a tenu une réunion politique. Alors, si vous nous suivez sur le canal 27 à la télévision, vous allez voir les images. Vous les avez peut-être vues également dans le 20h de France 2. Eh bien, Laurent Wauquiez était dans un décor pour le moins sombre, triste, une lumière faiblarde. Je m'adresse à l'expert en communication, Mathias Léridon. Est-ce que c'est une bonne mise en scène ?
C'est une bonne mise en scène pour la communication politique d'avant l'élection d'Emmanuel Macron. Ah. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'en fait, c'est des codes de communication politique du XXe siècle. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la transformation générationnelle qui s'est faite après l'élection d'Emmanuel Macron, il y a aussi une transformation des codes de communication, du dialogue qu'il y a avec les Français. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si Laurent Wauquiez se sort très bien de ce renouvellement générationnel, là, lorsqu'on regarde son meeting, on a l'impression d'avoir Jacques Chirac il y a 30 ans. C'est-à-dire que la droite de retour, deux drapeaux, tout ça dans le noir.
Dont le
drapeau européen, tout ça n'est pas très joyeux, tout ça n'est pas très jeune. On a l'impression qu'en fait, il n'a pas trouvé ses codes de communication politique. Et c'est malgré tout important parce qu'on est dans un monde d'image et que l'image, elle véhicule aussi une partie du message.
Ouais, mais ça coûte cher quand même quelques spots supplémentaires, un peu de maquillage et un beau décor.
Non, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'imagination. C'est-à-dire qu'il faut pas simplement réinventer le positionnement parce qu'il y a un enjeu majeur sur le fond quand même, qui est de savoir comment les Français qui sont plutôt de valeur de droite vont trouver quelque part une expression politique et vont pouvoir la soutenir. Donc il y a d'abord un enjeu de fond avant un enjeu de communication. Mais il y a un enjeu de communication, c'est comment faire vivre ce fond dans des codes de dialogue avec les Français qui ressemblent à ceux pour lesquels les Français aujourd'hui sont habitués. On ne vit plus dans le dialogue politique comme on vivait il y a même 2 ans.
On ouvre une nouvelle page de cette semaine politique. On va faire un retour en arrière. Semaine politique très intéressante où l'on est passé, on va dire, on l'a tous dit, d'une absence de parole du chef de l'État pendant 3 mois. Il y a eu des images, mais il n'y a pas eu de parole. À tout à coup, une longue interview dans l'hebdomadaire Le Point, à une séquence très longue de la présentation de la réforme du travail par le Premier ministre, la ministre du Travail. Tout le monde a dit bravo, bien géré. Est-ce qu'on a définitivement tourné la page de ces 3 mois difficiles où il y avait de l'image, mais il n'y avait pas de sens, Jean-Christophe Ploquin?
Je pense que c'est juste la rentrée politique et donc Emmanuel Macron a essayé de maximiser finalement le temps et d'attirer l'attention au maximum, mais effectivement en le faisant avec je rajouterai aux interventions que vous avez mentionnées aussi le discours qu'il a prononcé devant la conférence des ambassadeurs et où il a présenté un petit peu sa vision de la France, de l'Europe et du monde aujourd'hui, et qui était un discours aussi très structuré qui croisait d'ailleurs en partie l'interview qu'on pouvait retrouver dans Le Point 2 jours plus tard. Moi, je trouve que cette longue interview, d'abord, je me félicite au nom d'un journal qui, comme l'Observateur, comme Le Point, donc joue à la fois la carte du papier, du web, des réseaux sociaux. Et là, on voit bien que le papier, ça reste un support très important dès lors qu'on veut réfléchir, analyser, donner à penser.
Ça n'aurait pas été possible à la télévision, une interview comme ça à la radio.
C'est très différent. L'interview dans Le Point, vous vous posez, elle demande quand même un petit effort, elle est quand
avec
même assez longue. Exactement, moi j'ai sorti le Stabiloboss sans faire de publicité. Voilà. mais de fait, il y avait du fond, et en gros, pour résumer, le message de Emmanuel Macron dans cette interview, c'était « je veux une France forte ». Ça passe par la résorption du chômage de masse, ça passe par la lutte contre les inégalités, notamment en matière de formation. Et ça passe par, je dirais, une imbrication entre les intérêts de la France et les intérêts de l'Europe qui nous permettra d'exister dans le monde. Bon, donc ça a été une prise de parole, effectivement, ça fait peut-être moins le buzz sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même quelque chose d'assez fondateur qui structure le débat, je pense, pour les semaines à venir.
Caroline Michel, l'Observateur, l'Obs, vous avez forcément lu et acheté votre concurrent
et souligné.
Qu'en avez-vous retenu? Moi, j'avais retenu cette petite phrase qui a beaucoup fait parler. Je vais devoir vivre avec l'impatience du peuple. Il sait que le temps de l'action politique n'est pas le même que celui de la campagne, où on rêve, où on lance des idées et...
Il y a plusieurs choses. D'abord, sur le caractère d'Emmanuel Macron, on parle souvent de sa mobilité. Moi, je voudrais souligner encore une fois sa plasticité. C'est qu'il a une capacité à enregistrer les erreurs ou les erreurs de jugement et à changer de direction immédiatement avec ce qui pourrait passer pour du reniement chez quelqu'un d'autre. Et finalement, il le fait avec une facilité. Pendant 3 mois, il nous a dit « je ne serai pas François Hollande, je ne communiquerai pas ». À la rentrée, il se dit, il faut communiquer, il y va, et toujours avec une manière qui est à la limite des gros sabots. Brigitte Macron va dans Elle, on sait que c'est pour remplir tel objectif. Il va parler au point, ne se faisons pas d'illusions, tout ça est extrêmement pensé. Il va parler à une frange de l'électorat, à un électorat qui n'a pas encore totalement séduit, qui pourrait être l'électorat de Wauquiez. Et voilà, donc tout ça est extrêmement réfléchi. Moi, j'ai retenu deux mots, contrairement à vous. D'abord, la première chose, c'est quand il parle de terrorisme, il utilise le mot héroïsme, héros, à 5 ou 6 reprises. Et là, on voit bien quelque chose de très fort qui est de développer une idéologie, un imaginaire pour répondre à un certain désarroi des Français. Et je pense que là-dessus, s'il y arrive, je ne sais pas s'il y arrivera, mais ce sera très important. Il y a quelque chose d'autre qui dit au tout début de l'interview qui n'a pas du tout été relevé, c'est le mot amalgame quand il parle de l'identité de la France, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais il met sur le même plan catholique, protestant, juif et musulman, il revient sur cette idée de France multiculturelle, et je crois que là-dessus il pourrait y avoir des débats très forts avec M. Wauquiez.
On va y revenir, 20h20 sur France Info, les informés de France Info continuent, l'info d'abord, Marc Potvin.
Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir demain. Ça fait suite à l'annonce d'un nouveau test nucléaire mené par la Corée du Nord. De leur côté, le président français et la chancelière allemande affichent leur fermeté. Emmanuel Macron et Angela Merkel réclament des sanctions européennes en plus d'éventuelles sanctions décidées par l'ONU. C'est du jamais vu. Depuis 1945 en Allemagne, 65 000 habitants de Francfort ont été évacués aujourd'hui pour permettre le désamorçage d'une bombe. L'opération vient de se terminer. La bombe en question date de la Seconde Guerre mondiale. Elle pèse près de 2 tonnes. Le violent incendie dans le Var est désormais maîtrisé. Depuis hier soir, il a parcouru 460 hectares à Hyères et à Lalonde-les-Maures. Dans leur lutte contre les flammes, 3 pompiers ont été légèrement blessés. Le parquet de Toulon a ouvert une enquête. Le maire de Lalonde-les-Maures sous-entend que le feu est d'origine criminelle. Le Premier ministre réagit sur France Info après la mise en examen d'un député La République En Marche. J'espère qu'il prendra ses responsabilités, déclare Édouard Philippe. Le chef du gouvernement répondait à une question sur une éventuelle démission du député Mjid El Gherab, cet élu accusé d'avoir frappé un cadre du PS avec un casque de moto. Et puis deuxième victoire d'affilée pour les Bleus à l'Euro de basket. Ils ont surclassé l'Islande 115 à 79 cet après-midi à Helsinki. Les basketteurs français pourraient valider leur billet pour les 8e de finale dès leur prochain match. Ce sera mardi contre la Pologne.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu. Les informés de France Info, sur France Info la radio, France Info la télé, canal 27, sur le site bien sûr et vos applications. On continue ce tour d'horizon de la semaine politique qu'on évoquait il y a quelques instants. La longue interview accordée par le président de la République Emmanuel Macron à l'hebdomadaire Le Point, Alban Micosi. Est-ce que cette interview va rester comme un marqueur pour le quinquennat d'Emmanuel Macron?
Vous disiez quelque chose de très juste tout à l'heure, c'est une interview écrite, on va donc pouvoir s'y référer. Ça, c'est une première chose.
Y revenir de temps en temps.
Et y revenir et vérifier si...
Un petit peu comme l'inversion de la courbe du chômage qui est revenue tous les mois.
Ça, c'est un risque. En tout cas, moi, ce que j'ai noté, c'est que pour les éditorialistes de la presse internationale, cette semaine est la première réelle de la présidence Macron. Parce que chez les anglo-saxons, notamment, la notion de président jupitérien, elle signifie rien du tout. Pour parler clairement. Ce qui compte, c'est la transformation du code du travail français. Alors, transformation espérée par les tenants de l'économie libérale, transformation redoutée par ceux qui estiment qu'au contraire, il y avait un modèle français qui ménageait quelque part le statut du salarié. Dans la longue interview du président Macron, oui, il y a effectivement là-dessus une définition claire de là où il veut nous emmener, cette espèce de flexi-sécurité, même si on a plus vu pour l'instant la partie flexi que la partie sécurité.
Alors, à propos d'exercice de communication, je voudrais vous faire écouter ceci. C'était ce midi dans l'émission Questions politiques de France Info, France Inter, avec le journal Le Monde. Le Premier ministre Édouard Philippe était l'invité. Il est revenu sur une déclaration de Bruno Le Maire, c'était hier en Italie, comme quoi l'État allait céder des participations d'entreprises. Alors, vous allez entendre, le Premier ministre, contrairement à Bruno Le Maire, lui, il a refusé de parler de privatisation. Ou, comment dire, sans le dire, pour ne pas être accusé de l'avoir dit.
Dans l'esprit de nos concitoyens, cession de participation et privatisation, c'est probablement la même chose.
C'est
probablement la même chose. Dans l'esprit de nos concitoyens, j'utilise le terme, qui est peut-être un peu le terme technique, pardon pour cette précision. Nous allons céder des participations au rythme qui sera le plus approprié pour l'État pour financer l'innovation et la recherche.
Mathias Léridon, est-ce que c'est de la vieille politique, cette déclaration ? Je ne le dis pas pour pas m'accuser, etc., etc. Où il était pris au piège, le Premier ministre ?
Moi, je ne crois pas qu'il ait été pris au piège parce que la posture du gouvernement par rapport à l'économie, c'est quand même un des éléments majeurs de la politique et du positionnement d'Emmanuel Macron. Il a deux grands éléments majeurs. Il a les sujets de société et les sujets économiques. Et sur les sujets économiques, finalement, lorsqu'on interroge les Français, il y a beaucoup de Français qui se posent la question de savoir pourquoi l'État, dans un certain nombre d'entreprises, contrôle des entreprises qui sont en concurrence dans une économie de marché avec à la fois des concurrents français, des concurrents étrangers. Il y a évidemment des mots qui font très peur. C'est-à-dire que privatisation, ou nationalisation, est-ce que tout d'un coup l'État prend le contrôle de l'économie ou est-ce qu'on est dans un marché totalement libéré, type anglo-saxon, dans
avec
lequel il n'y a plus de régulation.
Avec la grande peur de 1981, quoi, grosso modo.
Je crois que c'est un débat sur lequel, finalement, lorsqu'on interroge les Français sont déjà après ce débat.
D'accord.
C'est-à-dire que je crois que c'est finalement... Alors, pardon, je suis le seul qui n'est pas journaliste ce soir autour du plateau, qu'il y a finalement un intérêt médiatique peut-être un peu trop fort par rapport à une sémiologie, une lexicologie qui, finalement, ne veut pas dire grand-chose. Moi, je voudrais juste revenir un tout petit moment sur la stratégie de communication d'Emmanuel Macron,
oui.
Parce que la réalité, c'est qu'en fait, au fond, il y a quelque chose qui dit dans le point qui est très intéressant, qui est d'ailleurs très mitterrandien, c'est qu'il dit ce qui est important pour le président de la République, c'est d'être le maître du temps. C'est-à-dire que son rapport au temps, ce n'est pas le rapport à un temps court, c'est un rapport à un temps long, puisqu'il a eu un mandat qui lui vient de l'élection présidentielle, donc le suffrage universel, et ce mandat, il est pour 5 ans. Et ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, depuis le début, il faut lui reconnaître une certaine cohérence, c'est qu'il gère le temps long. Alors, est-ce qu'il le gère bien, est-ce qu'il le gère pas bien ? Là, je vous laisse l'analyse de cette approche. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il a une cohérence et donc il n'est pas dans une pression. Maintenant, il faut aussi aller sur les réseaux sociaux. La réalité, c'est qu'on dit qu'il n'a pas beaucoup parlé au cours des 3 derniers mois. Maintenant, la présence d'Emmanuel Macron dans les réseaux sociaux, lorsqu'il va en banlieue avec des jeunes qui, avec leurs selfies, avec leurs...
Demain, on aura ça avec la rentrée scolaire.
On a une espèce d'explosion sur les réseaux sociaux de la présence d'Emmanuel Macron. Ça n'est pas tout à fait les codes précédents de François Hollande, c'est vrai, ni ceux de Nicolas Sarkozy. Mais ce sont de nouveaux codes.
Il vient de se doter d'un porte-parole qui va beaucoup tweeter, nous a-t-on dit. Donc alors il va être encore plus sur les réseaux sociaux. Pour revenir sur l'idée de la privatisation, si on parle de la Française des Jeux, on peut penser que peut-être l'État ne veut pas vendre tout d'un coup sa participation dans la Française des Jeux. Donc, ils vont y aller progressivement. Par ailleurs, je pense qu'il y a quand même un grand pragmatisme de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron par rapport au contrôle de certaines usines ou entreprises jugées stratégiques. Quand on voit l'énergie que met Bruno Le Maire pour empêcher que l'Italie ait 51% de STX, on voit bien que ce ne sont pas des libéraux non plus débridés.
On va revenir sur tous ces sujets, on a le temps, la deuxième partie des informés de France Info nous attend, où l'on parlera aussi du blues de Nicolas Hulot et de la Corée du Nord qui fait la une de l'actualité depuis ce matin.
Visa pour l'image, 29e Festival international du photojournalisme à Perpignan avec France Info. Exposition, projection, colloque, retour en image sur l'actualité marquante de cette année.
Les 45 réfugiés descendent du bus, le visage fatigué.
Deux semaines d'immersion dans l'univers des photojournalistes du monde entier.
Les antichavistes ont baptisé cette journée la prise de Caracas.
Visa pour l'image à Perpignan jusqu'au 17 septembre en partenariat avec France Info.
Aujourd'hui, l'info s'écoute.
L'info se regarde.
L'info se suit.
L'info se commente.
L'info se partage.
L'info, c'est France Info.
Aujourd'hui, France Info, c'est une radio, une application, le site franceinfo.fr
et une chaîne de télé sur le canal 27 de la TNT.
France Info Météo, avec Pilote, stylo innovant et respectueux de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
Et quel sera le temps de ce lundi de rentrée scolaire, Jean-Michel Golinski?
Un temps différent pour cette journée de rentrée entre les régions de l'Est et celles plus proches de l'océan, avec comme ligne de partage Lille, Paris, Bourges, Aurillac et Carcassonne. À l'est de cet axe, vous allez conserver un temps sec, mais un ciel néanmoins très voilé vers les Ardennes, la Bourgogne et de l'Auvergne à la vallée du Rhône. En revanche, sur la partie ouest, l'ambiance sera plus maussade avec beaucoup de gris et de temps en temps un peu de pluie. À signaler des précipitations plus marquées entre la nuit et le début de la journée des Pyrénées-Atlantiques au Gers et le retour d'un ciel plus clément l'après-midi près de la mer entre le sud de la Bretagne et le Médoc. Les températures globalement plus douces seront comprises entre 10 et 15 degrés le matin. L'après-midi, il fera 20 à 25 degrés dans la moitié nord et de 25 à 28 du sud-ouest vers Rhône-Alpes et la Méditerranée.
Jean-Michel Golinski à Météo France.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, l'info, Emmanuel Langlois.
Angela Merkel et Emmanuel Macron appellent à un durcissement des sanctions de l'Union européenne contre la Corée du Nord après son nouvel essai, cette fois d'une bombe à hydrogène la nuit dernière. La puissance de la secousse était de 5 à 6 fois supérieure à celle du dernier essai nucléaire de Pyongyang. C'était en septembre 2016. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain après-midi sur le sujet. Une bonbonne de gaz découverte à l'intérieur d'une voiture stationnée moteur allumé plusieurs heures durant dans une rue de Rennes, à proximité de la base de défense du commandement et d'un grand centre commercial. Les démineurs sont intervenus pour vérifier qu'il n'y avait pas de risque d'explosion. Du football, les Bleus, soulagés par leur démonstration face aux Pays-Bas, victoire 4-0. L'équipe de France qui doit se remobiliser face au modeste Luxembourg ce soir à Toulouse, en éliminatoire du Mondial 2018. Le match débute dans un quart d'heure. Mbappé sera titulaire, hein, Sébastien Hazard.
Côté droit, Kylian Mbappé, qui avait été très impressionnant lors des 10-12 minutes qu'il avait effectuées au Stade de France. Il avait marqué d'ailleurs son premier but international. Là, vous entendez, c'est le fameux clapping. Ce sont les supporters qui sont en train de s'échauffer. Les joueurs, eux, sont entrés au vestiaire. Ils sont restés une petite demi-heure. Ils vont revenir d'ici un quart d'heure. On vous l'avait dit, hein, Kylian Mbappé sera titulaire. Pour le reste, c'est pas exactement la même équipe qui avait débuté au Stade de France. Olivier Giroud devant la pointe de l'attaque avec Antoine Griezmann à côté de lui. Sur le côté gauche, un joueur très intéressant, c'est bien sûr Thomas Lemar, dont on dit le plus grand bien depuis longtemps, mais en équipe de France, il a été étincelant lors du dernier match. Et puis à la récupération, Pogba, Kanté, la défense, Umtiti, Koscielny, puis sur les côtés, Sidibé et Kurzawa. Et le capitaine de l'équipe de France, c'est toujours le même, évidemment, c'est Hugo Lloris, le capitaine et le gardien de l'équipe de France, que l'on voit dans un quarts d'heure face au Luxembourg.
Sébastien Hazard en direct, vous suivrez ce match avec Franck Ballanger, Alain Gastal également sur France Info. Merci. Battu en ouverture à Bordeaux, le champion de France de rugby Clermont s'est bien repris cet après-midi et s'impose à domicile face à Toulon 21-16. C'était la clôture de la deuxième journée du top 14. Les Français qui affolent les compteurs face à l'Islande, battu 115-79 cet après-midi à Helsinki. C'était le troisième match des Bleus dans l'Euro de basket. Il y a 27 ans que les tricolores n'avaient pas marqué autant de points lors d'un match. Un week-end idyllique à Monza pour Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix d'Italie. Le Britannique ravi aussi et pour la première fois cette saison la tête du championnat à l'Allemand Sébastien Vettel. Le pilote Mercedes compte désormais 3 points d'avance sur son rival de Ferrari à cette course de la fin. Et puis l'US Open de tennis, le dernier Français en lice, Lucas Pouille, affronte l'Argentin Diego Schwartzmann en 8e de finale d'ici quelques minutes.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info sur France Info, la radio, vous le savez, France Info, la télé, vous en avez l'habitude, maintenant le canal 27 et puis aussi sur le site franceinfo.fr avec nos invités. On continue à débattre de l'actualité politique du week-end. On revient également sur les grands événements politiques de cette semaine. Autour de cette table, Alban Micosi de la rédaction de France 2, Caroline Michel de la rédaction de l'Obs, service enquête, Jean-Christophe Ploquin du journal La Croix et Mathias Léridon, expert en communication politique, notamment président de Tilder. On va poursuivre ce débat. On évoquait il y a quelques instants le Premier ministre sur les antennes de France Info, France Inter, avec le journal Le Monde ce midi, qui évoquait la privatisation, sans le dire, de certains domaines. Jean-Christophe, vous évoquiez la Française des Jeux. Il est question peut-être aussi d'aéroports de Paris. Caroline Michel, la privation, ça fait penser forcément à une certaine époque. Est-ce qu'on est revenu dans ce schéma-là ou pas ?
Je crois que la différence que fait le Premier ministre, elle est essentiellement dans la communication et dans la symbolique. Si vous dites privatisation, vous allez avoir les syndicats et les salariés de la SNCF, d'EDF, des grandes entreprises publiques qui vont monter au créneau en disant « pas question ». Si vous parlez de cession de participation, l'État, en effet, dans l'agence des participations, un certain nombre de part dans Air France, par exemple, l'État a 16% d'Air France, dans des aéroports, dans des petites compagnies d'énergie régionale, qu'il pourrait céder sans que ça fasse lever les foules. Donc, à mon avis, il y a là une prudence sémantique qui vise à ne pas affoler les foules, notamment les syndicats, dans un moment, en effet, vous l'évoquiez, qui va s'annoncer extrêmement compliqué, notamment avec les partenaires sociaux.
On va y revenir. Jeudi dernier, le Premier ministre, avec la ministre du Travail, ont présenté les ordonnances concernant la réforme du droit du travail. Alors, il y a eu un flot d'informations commentées par les syndicats, par les experts. Le Premier ministre en a profité lors du 20h de France 2 pour annoncer le prochain grand rendez-vous. La réforme de la formation professionnelle, une enveloppe considérable, 40 milliards d'euros mal utilisés, selon le président Jean-Christophe Ploquin.
Bah oui, après cette séquence effectivement des ordonnances où le droit du travail est en quelque sorte desserré pour permettre aux chefs d'entreprise, notamment des petites entreprises, de finalement avoir plus de souplesse pour mener leurs affaires. Donc on voit dans le côté flexi-sécurité l'articulation entre plus de flexibilité dans la gestion des affaires et puis la sécurité pour les salariés. On voit plutôt pour le moment le côté flexible. Et donc je pense que la réforme de la formation professionnelle va pouvoir apporter des éléments davantage sur la question de la sécurité. Tout l'enjeu, c'est effectivement comment permettre à des gens, soit des gens qui vont se retrouver au chômage, soit des gens qui sont déjà éloignés du chômage, finalement de bénéficier de formations qui vont leur permettre de revenir à l'emploi. Quelles dispositif, ça pose la question de l'indemnisation qui a été déjà évoquée par le Premier ministre avec des revalorisations, mais aussi ça pose la question de tout le système de formation professionnelle où il y a un consensus à peu près généralisé pour oui. voir qu'il ne fonctionne pas et où on voit que, d'ailleurs je crois que c'est signalé dans l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point, enfin les universités vont être sollicitées pour rentrer aussi dans le jeu de la formation professionnelle.
Alors ce sujet de la formation professionnelle, c'est, on va dire, moins épineux, moins dangereux que d'autres réformes annoncées, elles sont trois au total, la réforme de l'UNEDIC, la réforme des retraites, Mathias Néridon. Il y a danger avec les organisations syndicales, oui. sauf si on négocie bien.
Il y a danger parce que c'est un iceberg, hein, la formation professionnelle. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Alors, ce qu'on ne voit pas, c'est ces multiples organismes de formation professionnelle, c'est ces masses budgétaires absolument hallucinantes face à un constat. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Christophe. Il y a un constat en France que la formation professionnelle, ça ne fonctionne pas. D'abord, on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'un jeune bien formé, on va parler ensuite des jeunes qui ne sont pas formés, mais qu'un jeune bien formé puisse vivre dans une entreprise pendant 35 à 40 ans sans jamais se reformer. Enfin, le monde va tellement vite que tout ça est complètement aberrant. Et lorsqu'on regarde, lorsque quelqu'un a fait l'expérience du chômage, lorsqu'on voit le côté mais totalement aberrant de l'offre qui lui est faite en termes de formation professionnelle, au moment où il en a le plus besoin pour retrouver un travail, on est dans un système qui est complètement par-dessus tête. Donc ça, je pense que le constat, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est comment faire en sorte de bouger l'immense système de la formation professionnelle dans lequel il y a un entrelacs, des croisements entre les différents partenaires sociaux, des secteurs de la formation professionnelle qui sont contrôlés par certains et pas d'autres. Et ça, c'est un vrai enjeu parce qu'en fait, c'est un enjeu qui n'est pas un enjeu de débat public, c'est un enjeu systémique. Donc, je pense que le débat pour la formation professionnelle, il est probablement pas très risqué sur le plan de la communication. Oui. Tout le monde est d'accord sur le fait que ça fonctionne pas. Donc, tout ce qui sera fait pour que ça fonctionne un peu mieux, tout le monde sera derrière. En revanche, détricoter le système de la formation professionnelle, ça va probablement être beaucoup plus difficile que ce qui se passe sur le code du travail.
Alban Micosi.
C'est pour ça qu'il a été assez habile, Emmanuel Macron et le gouvernement autour, dans cette réforme du code du travail, en s'appuyant, en donnant à FO un certain nombre de signaux, en donnant à la CFDT des signaux moins clairs, ce qui fait que la CFDT a donné un positionnement finalement moins clair, et puis laissant la CGT à son opposition, une opposition qui était attendue,
oui.
mais qui finalement n'est pas une opposition qui s'agrège avec celle de Mélenchon, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait deux manifestations différentes, dont on peut se demander d'ailleurs si elles ne sont pas un peu concurrentes.
On verra cela.
C'est... D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si ces manifestations vont réussir. Parce que c'est intéressant, on parlait des oui. nouveaux codes de dialogue entre les politiques et les Français. Moi, je pense que ça va être très intéressant de voir en septembre si les organisations professionnelles, les organisations syndicales vont réussir, elles aussi, à changer leur mode de dialogue avec les Français, avec les salariés et avec leurs élus.
On va poursuivre ce débat dans un instant, 20h40, très précise, sur France Info, l'info Marc Potvin.
Quelle réponse après l'annonce d'un test nucléaire mené par la Corée du Nord? Le Conseil de sécurité de l'ONU va en discuter demain, en début d'après-midi. Les réactions sont nombreuses. Ne cédons pas aux émotions, agissons de manière calme et pondérée, déclare le président russe Vladimir Poutine. Donald Trump, lui, ne partage pas ce calme. Il n'exclut pas une intervention militaire contre Pyongyang. En Allemagne, le débat Merkel-Schulz a commencé. Au moins 20 millions de téléspectateurs devraient suivre ce duel, retransmis sur 4 chaînes. La chancelière sortante fait donc face à Martin Schulz. Le social-démocrate compte beaucoup sur ce débat. Angela Merkel est bien partie pour rester au pouvoir, mais lui veut inverser la tendance. Le soulagement de la présidente des Restos du Cœur en Isère. Sur France Info, elle se réjouit des instructions données par le Premier ministre Édouard Philippe. Instructions pour que certaines associations continuent de bénéficier de contrats aidés. Ça va permettre aux Restos du Cœur de Grenoble de reprendre la distribution de repas chaud. Laurent Wauquiez a gravi le mont Mézin en Haute-Loire aujourd'hui, avant peut-être de se hisser à la tête des Républicains. Sur place, le candidat à la présidence de LR a prononcé un discours. Il s'est engagé à rassembler sa famille politique. Mais attention, ce rassemblement ne se fera qu'autour des valeurs de la droite. Et puis dans quelques minutes, le coup d'envoi de France-Luxembourg, match de football dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Ça se passe au Stadium de Toulouse. Les Bleus vont tenter de décrocher une nouvelle victoire après leur triomphe contre les Pays-Bas jeudi.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info sur France Info, franceinfo.fr, à la télévision sur le canal 27. On poursuit le débat engagé sur la contestation possible des 12 et 23 septembre. Deux manifestations, l'une organisée par la CGT, l'autre par les Insoumis, à savoir s'il y aura du monde derrière les revendications. Est-ce qu'on peut dire, franchement, et là je m'adresse notamment à vous, Caroline Michel, on va faire un tour de table, est-ce qu'on peut dire que depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron a la baraka? Je m'explique. Qu'il y a un contexte économique favorable, une reprise de la croissance la plus importante, on va dire, depuis 10 ans, la plus élevée. Et puis, il n'y a pas d'opposition en face, il n'y a pas d'opposition parlementaire. On a vu, l'Assemblée a été trustée. La seule opposition, l'opposition de la rue, l'opposition de Jean-Luc Mélenchon?
Alors moi je dirais deux fois non, parce que je crois pas du tout à la chance. D'abord sur les signaux économiques, oui la croissance reprend, mais les chiffres du chômage ne sont pas bons. Et malgré tout c'est ça qui compte, on a une augmentation du chômage de 1% en juillet de mémoire et de 0,1% sur un an. Et ce que les Français attendent c'est un recul du chômage évidemment. Pour ce qui est de l'opposition, là pour le coup je crois que Emmanuel Macron, cette absence d'opposition la doit beaucoup à lui-même. Chacun l'a un peu aidé. La gauche s'est auto-implosée sous le mandat Hollande. La droite a eu le fiasco qu'on connaît à cause du Penelope Gate. Bon, il a une conjonction d'éléments favorables, mais je ne crois pas au fait que ce qu'il est en train de faire serait dû à la chance. En revanche, ce qu'on peut souligner, c'est que ces ordonnances sur le Code du travail, qui ont été assez bien menées, tout le monde s'en félicite plus ou moins, même si la CFDT dit oui mais non, c'est la chose qu'il avait le mieux préparée, évidemment. Emmanuel Macron est un ancien banquier d'affaires, un ancien ministre de l'économie.
On se souvient quand même qu'il voulait foncer, qu'il voulait aller beaucoup plus vite lors de la campagne présidentielle, et puis on lui a rappelé qu'il y avait quand même des organisations syndicales qu'il valait mieux discuter pour ne pas les froisser.
Ça c'est sur la méthode, mais sur le fond, le sujet avait été préparé bien en amont. Je veux dire, même le gouvernement précédent, avec le rapport Gallois, etc. Vous retrouvez, vous relisez le rapport Gallois, ce que j'ai fait cet après-midi, les grandes conclusions, les grands thèmes, pour l'essentiel, étaient déjà posés. Sur la formation professionnelle, sur l'assurance chômage et sur la retraite par points, là, on ouvre des chantiers qui n'ont pas du tout, excusez-moi la comparaison, elle est mal choisie, mais pas du tout labouré, pas du tout travaillé. Et pour le coup, il n'y a pas eu du tout de pédagogie ou de travail avec les Français sur comment on va faire ce qu'on doit faire. Donc, je dirais à l'inverse que pour l'instant, s'il a eu un chemin relativement balisé du fait de son expérience et de ce qu'il avait promis, ce qui s'avance devant lui, ça ne va pas être facile.
Alors, cette semaine, dans le 8h30 politique de France Info, Bruce Toussaint, Jean-Michel Apathy, que vous retrouverez demain matin, recevait Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Et là, on assistait à un moment de vérité assez rare, je vais dire, où Nicolas Hulot, vous allez l'entendre, exprime un certain désenchantement de sa fonction. C'est la séquence émotion de Nicolas Hulot.
La raison moi, pour laquelle j'ai accepté d'être dans ce gouvernement, c'est que je pense qu'il y avait un préalable pour réformer ce pays, et notamment sur les sujets que je porte, pour les changer en profondeur les choses. J'ai fait ce choix. Si un jour, vous savez, j'y crois plus, j'en tirerai les leçons. Moi, je ne reste que tant que je crois que l'on peut collectivement changer les choses.
Mathias Léridon, est-ce que ça fait penser à Jean-Pierre Chevènement, la célèbre formule « Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ?»
Alors, je ne vais pas dire que ça ressemble à Jean-Pierre Chevènement après avoir dit qu'il y avait une transformation générationnelle, parce que sinon on va me dire que je ne suis pas cohérent. Non, je pense que Nicolas Hulot...
Il est sincère, c'est... là.
Moi, je pense que Nicolas Hulot, il a un engagement sincère depuis très très longtemps. Il a une image internationale et ça fait partie des figures non politisé de ce sujet qui finalement est un sujet qui n'est pas politisé, qui n'est plus politisé, ou heureusement qui est complètement repris par l'ensemble des formations politiques, c'est que l'enjeu du changement climatique est un enjeu majeur pour la planète et pour l'ensemble des peuples sur la planète. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'une personnalité aussi indépendante d'esprit, aussi engagée, peut travailler dans un gouvernement dans lequel il y a des contraintes. Et moi, je crois qu'on a beaucoup parlé de deux dates qui sont le 12 et le 23 septembre. C'est les deux dates de manifestation. Il y en a une qui est très importante, c'est le 24, qui va être l'élection sénatoriale. Parce que cette élection sénatoriale, elle va donner ou non à Emmanuel Macron et à La République En Marche la capacité d'avoir les 3/5 qui permettent de faire des réformes constitutionnelles au niveau du Congrès. S'il a la capacité de faire des réformes constitutionnelles, la réalité, c'est que là, l'algorithme politique change aussi, parce qu'il a non seulement la majorité totale à l'Assemblée nationale, mais il a aussi la capacité de faire évoluer la Constitution de la France, donc finalement la structure même de la politique de la France. Finalement, Nicolas Hulot, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, tant que l'ensemble des actions gouvernementales que je mène ne me mettent pas en contradiction avec mon engagement personnel, ça va bien. Et puis si à un moment donné, il faut que je fasse un certain nombre de concessions qui me mettent en porte-à-faux par rapport à mon engagement, bah, je quitterai le gouvernement. Moi, je pense qu'il est assez lui-même, il est assez vrai. Enfin, Nicolas Hulot, ça fait partie de ces ministres qui sont très vrais. Alors, est-ce qu'il faut y voir quelque chose qui est une espèce de menace ? Moi, je ne l'ai pas lu comme étant une menace. Je pense qu'il a toujours dit la même chose. Il l'avait d'ailleurs dit au départ, lorsqu'il avait accepté de prendre cette fonction, c'est qu'il accepte de prendre cette fonction à partir du moment où il pense qu'il peut être utile à ce qui est, en fait, au fond, son engagement personnel depuis des années.
Jean-Christophe Ploquin, dès sa nomination au ministère, on a entendu dire qu'il ne tiendra pas longtemps. Certains ont dit 5 mois.
Oui, moi, je ne le connais pas très bien, Nicolas Hulot, mais c'est vrai qu'entendre de la part d'un haut responsable du gouvernement numéro 3 du gouvernement, une parole de ce type, seulement après 100 jours ou un peu plus,
c'est quand même
très étonnant. Ce qui est vrai, c'est que Nicolas Hulot, il est effectivement numéro 3 du gouvernement, mais il est sur un ministère très transversal. C'est-à-dire, il y a peu de sujets sur lesquels il peut dire « on va faire ça ». Et il est obligé de tenir compte de poids lourds du gouvernement, du ministre de l'économie, d'un certain nombre de ministres en charge de l'énergie. Et par ailleurs, il ne dispose pas de base politique sur laquelle il puisse s'appuyer. On se rappelle les scores des écologistes à l'élection présidentielle, aux élections législatives, il n'y a plus de groupe écologiste à l'Assemblée, donc il n'y a pas de troupe derrière Nicolas Hulot. Et donc il est un peu dans ce moment où effectivement, alors que le train, je dirais, du gouvernement, de l'action gouvernementale est déjà parti très fort, et où peut-être qu'il perçoit à la fois qu'un certain nombre de dossiers qu'il veut porter ne sont pas forcément prioritaires, et où en plus il y a des échéances avec des décisions qui se rapprochent sur Notre-Dame-des-Landes, sur le site d'enfouissement des déchets radioactif à Bure et sur évidemment l'EDF de le PR de Flamanville. Donc voilà, il y a des échéances qui se rapprochent et qui vont être compliquées à gérer, qui risquent de le mettre en porte-à-faux par rapport à tout le milieu associatif écologique qu'il connaît parfaitement. Et c'est peut-être ça l'explication de ce vague à l'âme.
Caroline Michel, à chaque fois, le problème du ministre de l'Environnement, de l'Écologie, eh bien, c'est l'épine dans le pied d'un gouvernement, d'un président. On a envie, mais on ne peut pas tout faire.
En fait, tout le monde absolument est d'accord sur les objectifs et personne absolument ne veut le faire, en subir les contraintes ou en subir les coûts. Donc c'est très étonnamment, je trouve, Nicolas Hulot n'a pas du tout endossé la dimension absolument politique de ce ministère. On voit bien qu'à l'éducation, à la culture, des ministres de la société civile, parce qu'ils sont d'excellents techniciens, qu'ils connaissent parfaitement leur sujet, ont réussi à s'imposer en quelques semaines. Lui, il faut avoir un poids extrêmement politique, et c'est bien pour ça qu'il a été placé en troisième rang au niveau protocolaire dans le ministère, dans le gouvernement, et on voit bien qu'il est, on dirait que le costume est trop grand pour lui, il flotte, personne ne peut mettre en doute sa conviction, et pour quelqu'un qui quand même avait fait son engagement politique ces dernières années quelque chose, un espèce de fil rouge d'arlésienne, on voit bien qu'il ne se dilate pas, il ne prend pas la dimension politique. Le job est impossible, oui. On est d'accord, pour des décisions qui auront leur effet en 2040, mais je pense que tout le monde aurait envie qu'il réussisse, et pour l'instant, ça patine.
Une question, Kim Jong-un est-il le nouveau docteur Folamour de la planète ? Mais cette fois, ça n'est pas du cinéma, c'est le prochain sujet. 20h51 sur France Info. L'info, Marc Potvin.
La situation a évolué à hier et à l'Allon-de-les-Morts. Le violent incendie qui s'est déclaré hier soir est maintenant maîtrisé. Jusqu'ici, il a parcouru 460 hectares, précise la préfecture du Var. Boris Faure contre-attaque. Ce cadre du PS va porter plainte, notamment pour diffamation contre Mjid El Gherab, le député macroniste accusé de l'avoir agressé avec un casque de moto. Mjid El Gherab est mis en examen depuis hier. Il explique que Boris Faure a provoqué l'altercation de mercredi avis, c'est faux, répond l'intéressé. La Corée du Nord affirme qu'elle a effectué un nouveau test nucléaire. Ce matin, le président des États-Unis envisage une réponse. Arrêtez de commercer avec les pays qui font des affaires avec Pyongyang. Trump n'exclut pas non plus une réponse militaire. Demain, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue. Un habitant de la métropole de Francfort sur 10 évacué aujourd'hui, c'était indispensable avant de procéder au désamorçage d'une bombe. Il s'est achevé ce soir. La bombe en question pèse près de 2 tonnes. Elle date de la Seconde Guerre mondiale. Et puis une pointe de romantisme dans l'actualité. Par amour, la petite fille de l'empereur du Japon va renoncer à son statut royal. La princesse Mako annonce aujourd'hui ses fiançailles avec un homme qui n'est pas issu de la noblesse. Conséquence, elle sera exclue de la famille impériale. Visiblement, le sourire de son fiancé vaut plus qu'un titre de princesse. Mako compare ce sourire à un soleil.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Que dire après un aussi beau message d'amour? Malheureusement, il nous faut parler de la Corée du Nord qui a procédé ce matin à un sixième test nucléaire, certainement une bombe à hydrogène dans le nord-est du pays. Eh bien, cela, bien sûr, provoque une réaction en chaîne internationale, des déclarations. Alban Micosi, je me tourne vers vous, c'est votre spécialité, le service international de France 2. Est-ce que par cette nouvelle provocation, cette essai militaire, en tous les cas, le test d'une bombe H. Est-ce que le leader coréen défie simplement les États-Unis ou le monde ?
Un peu les deux, mais je dirais qu'il est tout sauf dingue. La Corée du Nord construit sa dissuasion pas à pas. On ne peut pas dire qu'on sera surpris. On a vu chacune des évolutions avec cette cohérence qui est « nous ne ressemblerons pas à l'Irak ou à la Libye ». On ne se laissera pas dominer par les Américains. Parce que veulent les Coréens? Clairement, ils ne veulent pas d'un scénario où leur régime disparaîtrait. Or, quelle est l'intention des Américains? À terme, vous savez, la paix n'a jamais été reconnue entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. La guerre de 52, bah, quelque part, elle continue toujours. Et maintes fois, les Américains ont évoqué la possibilité de réunifier la Corée. Et réunifier la Corée, ça veut dire se passer du régime de la Corée du Nord. Ça, la Corée du Nord n'en veut pas. Elle tape du point très fort sur la table. Ce soir, on peut dire qu'il y a encore un pas qui a été franchi. Oui, mais un pas qui ne nous surprend pas. La Corée du Nord est technologiquement capable de menacer ses voisins.
Mathias Léridon, expert en communication. Kim Jong-un, le leader nord-coréen, c'est un homme qui sait servir des médias. Il se fait toujours photographier, il est toujours en image dans ces situations près des ogives. On ne sait pas si elles sont vraiment nucléaires ou pas.
Ce que dit Alban est très vrai, c'est-à-dire que la Corée du Nord construit sa dissuasion nucléaire, mais la Corée du Nord construit aussi la stratégie de communication de la dissuasion nucléaire. Parce que la dissuasion nucléaire, c'était finalement la menace partagée en se disant « on a plus à perdre d'appuyer sur le bouton que de ne pas appuyer sur le bouton ». C'est vrai que là, il est dans une logique où il réinvente un peu les codes de la dissuasion nucléaire, puisque... il n'arrête pas, donc on est dans une escalade de la tension. C'est d'ailleurs une tension, alors on n'y va pas très souvent, mais moi je vous incite à aller voir tous les matins le message traduit de Kim Jong-un sur le site officiel de la Corée du Nord. C'est le fils spirituel de Fidel Castro et de Brejnev. C'est très très intéressant de voir cette espèce de message politique quotidien qui est envoyé et traduit dans des dizaines de langues sur le net. On voit bien qu'il est complètement indépendant. Alors, est-ce qu'il est fou, pas fou? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que la stratégie de communication de la Corée du Nord, elle est totalement indépendante et qu'elle ne respecte aucun des codes diplomatiques qui sont ceux de l'ONU et qui sont ceux des grands équilibres entre les nouveaux pays. Cet essai nucléaire, il s'est fait le premier jour du sommet des BRICS en Chine à Pékin. Les BRICS, c'est la moitié de la population mondiale. Ce ne sont pas les grandes puissances du XXe siècle, c'est les puissances de demain. Donc, il y a une habileté en termes de communication qui vient créer un effet de levier sur quelque chose qui est beaucoup plus industriel, beaucoup plus technologique, la capacité de la Corée du Nord à construire sa dissuasion nucléaire.
Alban Micosi, quel est le poids du Conseil de sécurité des Nations Unies là-dedans? Le poids de la France? Alors, à chaque fois, tout le monde condamne et puis voilà.
Le poids du Conseil de sécurité, presque nul. Le poids de la France, totalement nul. Le seul pays qui a éventuellement son mot à dire, c'est la Chine, puisque 90% du commerce de la Corée du Nord passe aujourd'hui par la Chine. Donc la Chine a, même si les Coréens du Nord se méfient des Chinois pour de multiples raisons, ne serait-ce qu'historique, il y a une obligation à ne pas tourner le dos à son partenaire et son grand voisin. Moi, je noterais quelque chose. Ce soir, vous le disiez dans le journal, Donald Trump menace tous les pays qui commercent avec la Corée du Nord. Ça, c'est une blague. Les deux pays principaux qui commercent avec la Corée du Nord, c'est la Chine. Donc là, voudrait dire que les États-Unis arrêtent d'avoir des relations avec la Chine. Personne n'y croit. Et l'autre, c'est le Japon.
Mais que peut-il dire? Parce qu'il y a 10 jours ou 15 jours,
il s'est mis lui-même dans un piège, voilà, en parlant de bruit, de fureur, etc.
Le feu et la colère.
Il a voulu jouer à celui qui irait plus haut dans la tension. Il a trouvé au moins quelqu'un qui parlait le même langage que lui sur ce point et qui n'a pas l'intention, publiquement, de faire allégeance aux États-Unis.
Caroline Michène, rapidement, quel est l'apprenti sorcier des deux, l'oncle Sam ou le Nord-Coréen?
Bah, c'est Donald Trump, très clairement. Alban le rappelait, en fait, cette stratégie d'acquisition de l'outil nucléaire dure depuis des décennies maintenant, du côté de la Corée du Nord. Ce qui a fondamentalement changé, c'est l'attitude des États-Unis et le mode d'expression des États-Unis qui est devenu le facteur d'instabilité.
Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat, ce rendez-vous, les informés de France Info, Alban Micosi, Caroline Michel, Jean-Christophe Ploquin, Mathias Léridon, bien sûr, les informés de France Info continue demain soir entre 20h et 21h avec Jean-Mathieu Pernin.